Donc effectivement, ça va être un exposé à trois voix. Alors le titre est un peu différent de ce qu'il y a dans le programme d'abord parce que le programme a un peu changé. Mais c'est surtout pour mettre en évidence le fait que nous, ce qui nous a concerné beaucoup dans le cadre des projets qu'on a fait dans le cadre du GIS Climat, c'est l'aspect interdisciplinaire et le lien entre les physiciens de l'atmosphère et les médecins. Donc le but de cet exposé sera de vous montrer un peu les différentes étapes du projet. Il y a un aspect changement climatique aussi, mais qui n'est pas central. Alors les projets RISC-UV et REBUS que nous avons fait dans le cadre de cette collaboration, c'était justement de mettre en place cette collaboration entre géophysiciens et médecins dermatologues, ce qui n'avait pas vraiment été le cas auparavant en France sur les aspects du rayonnement UV. Et le but étant justement d'évaluer la part relative des paramètres comportementaux. Donc là, c'est les médecins plus et les épidémiologistes plus qui connaissent ces aspects-là et les aspects environnementaux. Donc là, c'est notre rapport à nous qui pouvons l'évaluer sur l'augmentation des cancers cutanés. Alors nous avons eu différentes actions. Nous avons eu des actions d'animation justement pour pouvoir un peu mieux étayer les sujets. Il y a eu trois colloques RISC-UV qui ont été organisés, dans lesquels sont intervenus des médecins, des physiciens aussi. Et on a même eu un historien du bronzage qui nous a fait un exposé sur le bronzage. Donc ça a été assez large et on a pu voir qu'il y avait une communauté qui était intéressée sur ce sujet. Du point de vue plus géophysique, nous avons essayé de mieux caractériser le rayonnement UV, notamment du point de vue des mesures, parce qu'il y a tout un tas de différents types de mesures du rayonnement UV. Il y a les radiomètres individuels, il y a les spectrophotomètres qui sont utilisés pour évaluer les tendances à long terme du rayonnement UV, qui sont très précis, mais qui sont utilisés dans très peu d'endroits. Il y a les instruments sols, les instruments satellites, donc voir un peu comment on peut utiliser cette différente gamme d'instruments pour bien caractériser le rayonnement UV et puis évaluer aussi l'influence des principaux paramètres atmosphériques qui influent sur le rayonnement UV, donc l'ozone, les aérosols, les nuages principalement. Nous avons aussi organisé des campagnes de mesures pour quantifier l'exposition au rayonnement UV dans différents environnements géographiques et pour faire un lien notamment avec les études médicales et les messages aussi de prévention auxquels les médecins sont très attachés. Alors là, c'est plus justement l'aspect changement climatique. Nous sommes intéressés aussi aux doses donc érythémateuses liées à l'apparition des érythèmes, mais aussi de vitamine D, parce que c'est aussi un sujet de santé publique qui est en émergence actuellement. Et nous avons essayé donc de caractériser ces doses et simuler leur évolution au XXIe siècle en utilisant justement les modèles de climat et les dernières simulations faites pour le GIEC. Alors les principaux acteurs de ces projets donc, sont des gens, pour la partie physicien, des gens de l'IPSL, donc moi-même, et puis Martial Afflin aussi, qui dirige le CIRTA, qui est la station instrumentée de l'IPSL. Marcelo de Paula Correa, ici présent, qui est venu deux années en France pour travailler avec nous, avec lequel on continue à avoir une collaboration. Et puis donc d'autres personnes qui sont intervenues, soit en tant que fournisseurs d'instruments, comme par exemple Colette Bronnier du LOA, qui, elle, est spécialiste justement de cette mesure très précise du rayonnement UV, ou Vincent Uripeuch pour Météo France, qui nous a fourni les résultats des modèles. Pour les médecins, donc Emmanuel Mahé, du Centre hospitalier d'Argenteuil, et puis Philippe Sayag, d'autres personnes aussi. Et puis nous avons eu aussi quelques actions avec les épidémiologistes de l'UVSQ. Donc le plan de cet exposé sera donc une première introduction sur les cancers de la peau qui sera faite par Philippe Sayag. Ensuite, je montrerai quelques résultats de ces projets et puis il y aura le point de vue du clinicien par Emmanuel Mahé.
Merci. Donc moi je me présente. Tu as les. Donc je me présente. Donc moi je suis pas du tout physicien ni épidémiologiste. Je suis comme Emmanuel, un bête dermatologue qui s'occupe d'essayer de guérir les patients qui ont des cancers de la peau. Le cancer de la peau, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement fréquent. Ça, c'est un mélanome, c'est un grain de beauté qui a mal tourné. Et c'est un cancer dont je vais essayer de vous présenter la problématique générale. Ça, c'est l'épidémiologie des cancers, les statistiques américaines des cancers, où on voit globalement que les cancers augmentent. Je ne sais pas comment marche ça, le laser. C'est ça, voilà. Bon, quel que soit le sexe, mâle ou femelle, avec des mortalités qui diminuent. Quand on voit dans les détails des différents cancers, il y a des cancers, par exemple chez la femme, qui augmentent régulièrement mais lentement, le sein, d'autres, beaucoup qui diminuent, le poumon, le colorectal chez l'homme. Là, il y en a un, la prostate, c'est un problème de biais de diagnostic, c'est pour ça qu'il y a eu des épidémies, puis maintenant ça tend à diminuer. Mais il y en a un qui était exceptionnel, qui augmente lentement mais sûrement, c'est le mélanome de la peau chez l'homme et chez la femme. Autrefois, c'était il y a 20 ans, 30 ans, c'était quelque chose qu'on diagnostiquait très rarement. Maintenant, c'est devenu un problème majeur de santé publique, avec, par exemple, comme c'est un cancer du sujet jeune, c'est la deuxième cause de perte de revenus aux États-Unis pour les hommes en âge de travailler, par cancer. Donc c'est un vrai sujet important. Voilà les chiffres. Vous avez ici les chiffres d'incidence des cancers, tout cancer en Australie et aux États-Unis. Vous avez vu, c'est la mortalité, qu'elle baisse petit à petit, parce qu'il y a des progrès médicaux qui sont importants. Mais en ce qui concerne le mélanome, dans ces deux pays, que sont les États-Unis et l'Australie, il y a une augmentation de la mortalité liée à ces cancers, parce qu'il y en a de plus en plus, et ce, malgré les progrès médicaux. Voilà les chiffres en France. Une augmentation régulière. C'est impressionnant. On était à 2 pour 100 000 habitants, population mondiale. On est maintenant à 10. On passait de 1980 à 2011, en 30 ans. Cette évolution touche toutes les tranches d'âge. L'âge médian du diagnostic du mélanome, c'est 50, mais les jeunes, comme les plus vieux, sont impactés. Voilà, c'est pas un problème que français. Voilà, par exemple, les courbes de mortalité dans les différentes régions en Europe, où on voit que vous envisagez déjà qu'il y a un problème lié au phénotype des patients. Plus ils ont la peau claire, plus ils font ce type de cancer. Et les populations à peau sombre, qui sont plutôt plus protégées. Bon, mais cela voyage vers le sud, et donc ils attrapent le mélanome. La mortalité augmente, j'ai déjà dit. Et le mélanome, c'est un des cancers. Est responsable de plus de morts par cancer de la peau, mais il y en a d'autres. Le mélanome est un de ces petits de fromage, mais le carcinome basocellulaire, BCC, l'autre, le carcinome spinocellulaire, représente de loin les plus fréquents de tous les cancers cutanés. Ils ne sont pas aussi graves, quoique pour le carcinome épidermoïde, le spinocellulaire, ça commence à devenir inquiétant, mais ce sont de loin les cancers les plus fréquents de l'homme. Pourquoi on en parle? C'est qu'ils sont tous liés aux UV, pour leur plus grande partie. Alors voilà des chiffres américains. C'est très difficile d'avoir de l'épidémiologie sur les carcinomes épidermoïdes ou spinocell carcinoma, mais en fait, dans les États du Sud, où il y a des expositions chroniques aux UV très importantes des populations, et une augmentation d'incidence telle qu'on estime actuellement que la mortalité par carcinome spinocellulaire les États du Sud des États-Unis égale celle du mélanome, ce qui est un phénomène tout à fait nouveau. Donc, les UV sont responsables de toute une série de pathologies, le mélanome, les carcinomes spinocellulaires et basocellulaires, ça c'est concerné aux dermatologues, mais aussi la cataracte pour les yeux, les ophtalmos. C'est responsable aussi de 90% du vieillissement de la peau, des rides, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Alors, si on résume ce que c'est un médecin, on a une incidence croissante des pathologies liées aux UV de façon très importante. Qu'est-ce qui peut intervenir? La quantité d'UV produite, mais aussi comment elle est transmise dans l'atmosphère. Ça, on va en parler. C'est responsable, en fait, de la quantité d'ultraviolet que reçoit la population. mais va intervenir ensuite les facteurs comportementaux, comment les populations se comportent devant ces problèmes, soit pendant leur travail, soit pendant les loisirs, comment est-ce qu'ils se protègent, à quel moment de la journée ils s'exposent, à quel âge de la vie ils s'exposent. Et globalement, ça va entraîner les doses annuelles que reçoit effectivement la vie, un patient, ou un sujet normal. Et puis sur ce problème de doses qui ont probablement augmenté de façon très importante, s'ajoute l'augmentation de la durée de vie, les gens durant plus longtemps, enfin, ils ont plus de temps de faire des cancers. Et ensuite, il y a une amélioration des techniques de dépistage qui font qu'on rapporte plus ces pathologies. Mais ce que je vais vous raconter n'est pas qu'un biais lié à un meilleur dépistage, c'est aussi une vraie réalité parce que la mortalité augmente pour ces cancers. Donc voilà ce que je voulais juste rapidement dire comme introduction. Et donc on va essentiellement se passer la première partie.
Merci. Donc je reprends. Alors pour un rappel sur le rayonnement UV, donc en fait, comme vous le savez tous, il y a le rayonnement UV se situe dans la partie vers les rayons X du rayonnement solaire. Le rayonnement UVA qui correspond alors donc, entre 320 et 400 nanomètres correspond à 98% du rayonnement UV reçu à la surface et le rayonnement UVB à 2%. Alors, ce rayonnement UVB, il est modulé par un certain nombre de facteurs atmosphériques. En premier lieu, la colonne totale d'ozone. Et ça a été le problème de l'appauvrissement de la couche d'ozone, justement, a mis l'accent sur la problématique d'une augmentation du rayonnement UV. Donc, ça, c'est une problématique différente du changement climatique qui, lui, peut influer, par contre, sur d'autres modulateurs du rayonnement UV tels que les nuages, les aérosols ou bien l'albédo de surface. Alors, quand on parle du rayonnement UV, pour les médecins, il faut parler plutôt des doses biologiques qui correspondent en fait au rayonnement reçu à la surface, mais pondéré par des spectres d'action. Et vous voyez ici les spectres d'action en rouge pour l'érythème, en fonction de la longueur d'onde, et en bleu pour la vitamine D. Et l'indice UV correspond en fait à 40 fois l'irradiance pondérée pour l'érythème. On parle aussi de doses cumulées, c'est ce que a mentionné Philippe sur le fait que pour voir vraiment l'effet des UV sur la santé, il faut prendre en compte les doses, le temps pendant lequel on reçoit une certaine quantité de rayonnement UV. Donc nous avons fait un certain nombre de campagnes de mesures pendant les projets, en automne, au printemps, nous avons installé des instruments de mesure du rayonnement UV à Palaiso, au CIRTA. Nous avons utilisé plusieurs types de mesures. Nous avons évalué des instruments satellites, des instruments sol, des dosimètres personnels aussi, avec donc cet instrument de référence dont j'ai parlé, qui est le spectrophotomètre du LOA, qui est utilisé pour les tendances à long terme, qui fait référence en fait. Et puis nous avons aussi mesuré les paramètres annexes qui influent le rayonnement UV dont je viens de parler. Donc, parmi un des premiers résultats que nous avons eus, nous avons testé les instruments commerciaux qui sont très utilisés. Il y a beaucoup de publicité en fait sur le fait de protéger, notamment pour les mamans de jeunes enfants ou les parents, de protéger les enfants du rayonnement UV sur la plage, etc. Donc, on a essayé de voir finalement si ces instruments étaient fiables ou pas. Donc, on a installé tous de différents types d'instruments sur la au CIRTA et avec des dosimètres, etc. Et voilà le résultat que nous avons obtenu ici. Et nous avons pu voir qu'il y a une forte surestimation du rayonnement UV par certains appareils et puis quelques sous-estimations aussi. Donc finalement, il y a beaucoup de choses à voir encore si on veut utiliser ce type d'instrument pour vraiment évaluer la dose UV qu'on reçoit. Concernant la comparaison avec les différents types d'instruments, alors il faut savoir donc qu'il y a ces fameux spectrophotomètres de référence, mais la plupart du temps, on utilise des radiomètres à bande large. Et donc là, vous voyez ici la différence entre ces différents instruments à bande large installés au CIRTA et puis le spectromètre de référence, les différents histogrammes de différence ici, avec les dosimètres que nous avons utilisés pendant les campagnes de mesure. Et là, c'est les résultats pour les différents satellites, les mesures satellites qui sont utilisées pour évaluer l'indice UV et pour les alertes à la population, enfin, qui sont utilisées pour donner les valeurs de rayonnement UV dangereux. Alors, on peut voir qu'il y a certains biais, notamment dans le cas de certains instruments, comme un des instruments sur la plateforme Envi4, qui montre un biais lorsqu'il y a des nuages, ou bien le modèle de Météo France, qui montre aussi un biais lorsqu'il y a des nuages. Alors, justement, l'effet des nuages, en général, on le quantifie via ce qu'on appelle le Cloud Modulation Factor, qui, en fait, exprime le rapport entre l'indice UV mesuré et l'indice en ciel clair, calculé à partir d'un modèle radiatif. Et ce qu'on a pu observer, c'est que, en fait, finalement, on observe une baisse réelle de l'indice UV à partir seulement de 70% de fraction de couverture nuageuse. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des nuages au-dessus de notre tête qu'on va voir forcément beaucoup moins de rayonnement UV. Et il peut y avoir aussi des phénomènes d'amplification lorsqu'on a des nuages très fractionnés au-dessus de notre tête. Donc, ça fait aussi l'objet d'une publication. La quantification des expositions au rayonnement UV, donc là on a organisé des campagnes avec des volontaires au cours du printemps et on a mesuré l'indice UV en différents endroits de Paris. On a voulu voir s'il y avait une différence au niveau des expositions entre le jardin, les parvis, les rues. Et donc là c'est un des résultats que je montre rapidement parce que Emmanuel va en parler aussi. Donc il faut savoir qu'à Paris finalement on est dans une région où finalement les indices UV en été sont relativement... on arrive dans la gamme des très forts au niveau de l'été, mais il peut y avoir aussi donc, les effets de nuages, etc., qui vont jouer. Et donc là, le 2 juin, par exemple, on avait une journée de ciel clair, donc, où on voit une augmentation normale du rayonnement UV typique du ciel clair, alors qu'ici, il y avait des effets de nuages qui ont... moduler le rayonnement UV. Et on voit aussi, suivant la couleur de la courbe qui correspond à différents endroits, soit des parvis, soit des rues, soit des jardins, qu'il peut y avoir aussi une différence de l'indice UV selon ces endroits, qui ensuite, lorsqu'on va les cumuler pour calculer la dose cumulée, peut amener des différences importantes sur la dose reçue par les individus. Alors j'en viens maintenant à problématique de l'érythème et de la vitamine D. Ici, ce qui est représenté ici, je ne vais pas rentrer, enfin, peut-être qu'on parlera de la vitamine D, mais ce qui est représenté ici, c'est le temps nécessaire pour synthétiser 1000 unités de vitamine D ou pour développer un érythème. Et ce dont on se rend compte de plus en plus, et il y a eu beaucoup d'études qui ont été publiées là-dessus, que dans nos latitudes, les latitudes de l'hémisphère nord d'Europe, par exemple, finalement, le temps pour synthétiser de la vitamine D, la quantité suffisante de vitamine D, est plus long que pour avoir un érythème en hiver. Et donc ça, c'est cette courbe que vous voyez pour Paris, comparée à une étude qui a été faite par Marcelo au Brésil, où là, dans tous les cas, de toute façon, on a toujours la possibilité de synthétiser de la vitamine D et sans avoir un... Et l'érythème, finalement, il faut plus de temps pour voir un érythème au Brésil. Alors, justement, c'est là où une deuxième partie du projet, ça a été de simuler ces doses érythémateuses et de vitamine et de synthèse de vitamine D en utilisant les simulations pour l'IPCC. Donc, pour ça, on a utilisé un modèle radiatif qui utilisait en entrée les simulations du modèle IPSL, pour le GIEC, avec des données d'entrée qui sont donc les données d'aérosol, pas les nuages, parce qu'il y a énormément d'incertitudes sur ces nuages, donc on a préféré rester en simulation en ciel clair, et puis le contenu d'ozone, en se focalisant sur des périodes d'intérêt qui sont l'hiver et le printemps pour la vitamine D, puisque c'est le moment où on n'a pas assez de vitamine D, et l'été pour l'érythème, puisque c'est la saison pour laquelle, finalement, on peut avoir des érythèmes. Et là, vous voyez le résultat pour les différents scénarios pour la vitamine D. Je passe assez rapidement, parce que je pense que... En fait, finalement, pour les prévisions pour la fin du siècle, les résultats sont les suivants. Donc, si on ne considère que les effets de l'ozone, donc il se trouve que suite au protocole de Montréal, en fait, on s'attend à la reconstitution de la couche d'ozone, mais du fait du changement climatique, il y aura plus d'ozone dans les latitudes nord. Et donc, cela a pour effet de diminuer, donc d'augmenter l'absorption du rayonnement UV par l'ozone et donc de diminuer ce rayonnement UV aussi bien pour les doses érythémateuses que pour les doses de vitamine D. Et cet effet est plus important pour la vitamine D puisque la fonction de pondération est plus dans les UV que pour l'érythème. Et si on prend les effets à la fois de l'ozone et des aérosols, alors là, comme il y a une diminution des aérosols, du coup, on a un effet un peu plus contrasté avec finalement une augmentation de la dose érythémateuse pour le scénario le plus favorable pour le changement climatique, le scénario de faible émission de gaz à effet de serre, et dans tous les autres cas, enfin pour le scénario le plus dangereux pour le plus émissible de gaz à effet de serre, une diminution de la dose érythémateuse et de la dose de vitamine D. Voilà.
Donc bonjour, donc moi je suis Emmanuel Mahé, je suis dermatologue à l'hôpital d'Argenteuil. Alors il faut savoir que tous ces travaux, je les ai commencés quand j'étais maître de conférence chez Philippe Sayag, au sein de l'équipe d'accueil 43-39. Donc moi je m'occupais de la branche prévention, et en fait nous sommes complémentaires avec Philippe, puisque Philippe s'occupe des cancers et moi je m'occupe de les éviter. Donc actuellement je suis donc chef de service à l'hôpital d'Argenteuil. Donc risque UV, en fait, on parle du projet risque UV. En fait, il y a plein de déclinaisons. Risque UV 1, 2, 3, je ne sais plus si on en est à 4 ou 5. Expo UV, des études avec des mairies, comme l'étude écran, l'équipe Solado, il y a eu les Rebus. MTOM, c'est un autre projet qui n'est pas encore abouti avec Marcelo. Et c'est surtout une aventure humaine extraordinaire, puisque parler avec des gens qui parlent une autre langue, c'est formidable, surtout qu'à la fin, on arrive à parler le même langage, et une aventure scientifique. J'aime beaucoup cette citation de Churchill, et moi je me situe dans la deuxième partie. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Quand on s'est rencontrés la première fois avec Sophie, Martial, on avait des gens qui parlaient de la Terre, d'un pixel de 100 km sur 100 km, de satellites, et d'autres qui parlaient d'enfants à la plage, de névus, voire de cellules. Comment faire parler tous ces gens-là le même langage? Je crois qu'on y est assez bien arrivé. Et donc c'est une grande équipe maintenant, alors Sayag, ça n'a pas été corrigé, mais c'est un I, avec des dermatologues et d'autres dermatologues maintenant qui nous sollicitent pour participer avec eux. Donc il y a Martine Avenel, par exemple, d'Angers, qui nous a demandé de travailler avec elle. Alain Bochet, donc en santé publique. Les politiques, puisqu'on a Yonis Voldoukis de la mairie d'Antony qui nous demande de travailler dans les écoles d'Antony pour faire de la prévention solaire, pour faire des évaluations. Donc des physiciens. Et une vingtaine d'investigateurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment un projet qui a fait intervenir beaucoup, beaucoup de monde. Donc, comme l'a bien dit Sophie, il y a toute une partie physique, toute une partie dermatologique et des moments de rencontres privilégiés qui ont été les colloques Expo UV 1, 2, 3, avec des partages avec des photobiologistes, des physiciens du climat, des anthropologues, des épidémiologistes, des médecins de santé publique qui ne connaissaient ni la physique ni l'humain. Enfin, ce sont des moments de communication extrêmement enrichissants. Nous avons toujours travaillé avec beaucoup de plaisir. Pour vous montrer des exemples de nos travaux, en haut à gauche, vous avez, avec Marcelo, on a vraiment fait des travaux compliqués sur le risque solaire chez les touristes. Donc on se mettait dans la place d'un touriste, on traversait les Champs-Élysées, on remontait à la Madeleine, on allait à l'Opéra avec des mesures physiques, des petites pauses parce qu'il faisait chaud ce jour-là, dans mon souvenir. Mais ça évaluait vraiment le risque dans des conditions pragmatiques. Sophie vous a montré la carte à droite, très dure aussi, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Bois de Boulogne en face de Roland-Garros, enfin que des sites touristiques. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Et des campagnes de mesures dans des tournois de foot, chez les petits, plus récemment, chez les voileux. Donc, vous voyez, c'est comment faire de la science et prendre du plaisir. La campagne de mesures dont parlait, la première campagne de mesures dont parlait Sophie, alors on m'a critiqué en disant « Vous intéressez aux touristes à Paris, vaut mieux se concentrer sur la ménagère de plus de 40 ans. » Ce à quoi j'ai répondu qu'il est plus facile de publier sur le tourisme à Paris que sur la ménagère parisienne. Et c'est vrai. Donc en fait, le principe, c'est un peu toujours le même. De la mesure physique, de l'évaluation de risque et de l'étude comportementale. On part des indices UV. Donc là, c'est l'exemple d'une journée que citait Sophie. À partir de ça, on va calculer la dose cumulée d'indice ultraviolet. On va extrapoler, donc ça c'était le parcours, on peut extrapoler le temps pour avoir un coup de soleil, par exemple, à partir du moment où on s'expose. Toujours, on n'a pas étudié comportement sur les touristes. Là, on a étudié la réduction de l'indice UV, par exemple, en fonction, chez les gens qui étaient à l'ombre, parce qu'on faisait des mesures soleil-ombre. Et on se rendait compte que l'ombre est un extrêmement mauvais photoprotecteur, et si l'ombre était transformée en crème solaire, elle ne serait jamais vendue. Alors je vous rappelle que dans les campagnes de prévention, on insiste beaucoup sur l'ombre. Ça, c'est une autre interprétation du résultat que tu montrais, c'est-à-dire en ciel clair, en ciel nuageux, en ciel couvert. Nuageux, c'est 25 à 75% de couverture nuageux. Et on se rend compte que l'indice UV, en fonction du type de nuage, ne change absolument pas en cas de couverture nuageuse, jusqu'à 75% de couverture nuageuse. Donc ça aussi, pour un clinicien, c'est une information extrêmement importante en termes de prévention solaire. Quand un Français travaille avec un Brésilien, on parle forcément de foot. Et c'est une de mes grandes fiertés dans ce projet, c'est d'avoir publié dans une très grande revue d'hermatologie une étude sur le football, ce qui n'est pas donné. Et donc on a étudié dans un tournoi de foot chez des petits, hein, des 7-8 ans, là aussi, on partait de l'indice UV théorique, l'indice UV réel. Martial Afflin nous a donné la nébulosité à partir de mesures physiques sur Paris. Nous, on a étudié les comportements qui étaient totalement inadaptés. À partir de ça, la dose d'UV, le nombre d'œdèmes, c'est la dose érythémale minimale, c'est-à-dire en fonction du phototype, combien de fois on atteint la dose qui nous permet d'avoir un coup de soleil. Et vous voyez que dans cette journée fouteuse, si on avait un phototype très clair, on atteignait plus de 10 fois la dose érythémale. Et ça, cette courbe montre qu'en fonction du phototype, on illustre qu'à partir de tel moment dans la journée, il nous faut tant de temps pour atteindre notre DEM. Et un message important, c'est que si on s'expose avant 10 heures, bah, avant midi, on a déjà atteint notre DEM. Donc tout ça, ça va un peu à l'encontre des messages classiques de prévention solaire. Donc dans les écoles, vous voyez, c'est très difficile les travaux que l'on fait, c'est du plaisir de travailler dans ces conditions-là. Donc là encore, c'est une école d'Antony, c'est dans le cadre du projet que nous on a appelé Écran, pour école, soleil, école rayonnement solaire à Antony, c'est à peu près ça l'acronyme. Étude des comportements totalement inadaptés, étude de l'indice UV avec différentes localisations, qui étaient géolocalisées entre guillemets, calcul de dose érythémale. Et là, ce dont parlait Sophie, ce jour-là, on a calculé aussi, à partir des solarmetteurs vitamine D, la quantité de vitamine D synthétisée. Et on montrait qu'en fonction de la surface corporelle exposée, parce qu'on a des règles d'évaluation de surface corporelle, quel que soit le phototype, là, vous avez le temps pour atteindre l'ADEME, et là, vous avez le temps pour atteindre 1000 unités de vitamine D. Et on se rend compte qu'en cas d'exposition insuffisante, ce qui va être recommandé par les dermatologues, on ne va pas atteindre ce taux de vitamine D alors qu'on aura atteint cette DEM. Et donc, il faut des expositions qui vont toucher tous les membres supérieurs et inférieurs. Donc, ça a été valorisé par différents articles. Ça, c'est de la revue dermatologique. Donc, je trouve ça formidable que des physiciens publient en dermatologie, que des dermatologues publient dans des revues de physique. Mais la valorisation, c'est bien au-delà, hein, parce que maintenant, on a une vraie reconnaissance au niveau national. Cette dynamique est reconnue dans le monde de la dermatologie, avec des gens qui nous demandent de travailler avec nous. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est bien au-delà des filles de la collaboration médecin-physicien. Il y a des discussions avec des biologistes, des médecins de santé publique. Et là, on a des projets pour 2016 avec un psychiatre comportemental, ce qui est assez unique. C'est-à-dire qu'on va passer de l'UV au médecin au psychiatre comportemental. C'est pas évident. La reconnaissance internationale, récemment au dernier congrès américain de dermatologie, les dermatologues de Saint-Louis, Missouri, se sont mis à travailler sur le même thème du foot en s'appuyant sur nos travaux, donc avec possibilité de collaboration dans les années à venir. Et surtout, il y a un accueil du public exceptionnel quand on fait ces campagnes de mesures, que ce soit les enfants, les voileux, les parents sont toujours très très réceptifs à ces campagnes. Donc les perspectives, on ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a déjà des projets, donc un qui est abouti sur la voile en Vendée, avec Martine Avenel-Audran, qui est une dermatologue d'Angers, fanat de voile. On a deux études qu'on souhaite mener de 2015 à 2007, mais là, interventionnelle, c'est-à-dire qu'on va faire de la prévention, on va mesurer les comportements, mesurer les risques, toujours dans le foot et dans les écoles. Avec des foot, ce serait dans le 95 et les écoles du 92 qui pour l'instant nous ont toujours accueillis. Enfin, il y a des collaborations France-Brésil. On a raté le mondial 2014, Hein, parce qu'on voulait faire un colloque en juin 2014, mais on l'a raté. Donc on espère Rio 2016 pour le quatrième colloque Expo UV. Voilà, je vous remercie.
J'espère qu'on ne va pas en conclure qu'il faut laisser les enfants devant la télévision toute la journée.
Une mauvaise conclusion, parce qu'ils ne font pas de vitamine D. Non, je crois. Non, le message de prévention n'est pas un message justement qui est un peu excessif. Le message, c'est un message de prévention équilibrée. Ce n'est pas d'éviter le soleil, en aucun cas. Et ça, c'est un problème qu'on a en dermatologie avec certains groupes qui ont des messages très durs. Non, je crois que l'idée aujourd'hui pour l'avenir, c'est vraiment une prévention équilibrée. L'objectif, comme je dis souvent à mes patients, c'est d'éviter le coup de soleil. Qu'ils reviennent bronzer des vacances, je ne vois pas où est le problème. Il faut absolument éviter le coup de soleil, qui est un facteur de risque majeur de développer un mélanome, notamment les coups de soleil dans l'enfance.
Oui, c'est une question peut-être plus géophysique, donc qui va s'adresser peut-être plus à Sophie. Ou alors, si vous voulez échanger les rôles, c'est merveilleux. Concernant les conclusions du rapport de, j'oublie où c'est passé, Montréal, oui. Rapport d'évaluation. J'ai eu un petit peu, personnellement, un petit peu du mal à comprendre parce qu'il y a les effets du changement climatique sur l'ozone. Hein. Il y a eu plusieurs études un peu contradictoires sur le sujet. Est-ce que tu pourrais nous faire en quelques mots une synthèse des conclusions principales. Je crois que ça serait super. D'accord. Pour tout le monde, je pense.
Oui, donc, alors, le rapport, donc, sa conclusion principale, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sorti récemment, donc on a pas mal parlé dans la presse. La conclusion principale, c'est que la couche d'ozone est en cours de reconstitution, donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est ce qui a plu aux journalistes, d'ailleurs. Alors, par contre, ce qui est évoqué aussi, c'est les effets du changement climatique sur l'ozone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le changement climatique, il peut avoir des effets différents. Il a un effet, en fait, de réchauffement dans la basse atmosphère, mais un effet de refroidissement dans la haute atmosphère, là où se font les réactions qui régissent l'équilibre de l'ozone. Et donc, ça ralentit les réactions de destruction, ce qui fait que ça permet la reconstitution supplémentaire de l'ozone. Donc ça, c'est un effet positif. Un effet négatif, par contre, ça peut être le fait qu'il y ait plus de formation de nuages stratosphériques polaires dans les régions de destruction de l'ozone. Donc s'il y a plus, comme ces nuages influent sur la destruction de l'ozone, donc il peut y avoir un effet négatif sur l'ozone, mais cet effet-là n'est pas mis beaucoup en évidence par les modèles de changement climatique. Et alors, l'effet le plus important, c'est un changement dans la circulation méridienne qui affecte la distribution de l'ozone. Et le fait que, finalement, il y aurait une accélération de cette circulation méridienne, il faut savoir que l'ozone est formée au niveau des tropiques, mais cette circulation fait que, finalement, le contenu d'ozone au-dessus de notre tête, il est plus important aux latitudes élevées. Et le fait qu'il y ait cette accélération de la circulation méridienne, ça augmenterait le contenu d'ozone aux latitudes élevées et ça le diminuerait par contre aux tropiques. Mais ça ne diminuerait pas énormément aux tropiques. Donc effectivement, les gens des tropiques commencent à être un peu inquiets sur le sujet, mais c'est un effet relativement faible. Et puis après, il y a d'autres effets, des nuages, etc. pour le rayonnement UV de surface.
Merci. D'autres questions ?
Bonjour, merci pour vos présentations. Je suis Sophie Van Oembeek, je viens de Belgique. Et donc, moi, je travaille sur l'influence de l'environnement sur les maladies infectieuses. Donc, tout ça est tout nouveau pour moi, très intéressant. Mais je discute beaucoup avec des collègues à moi qui travaillent sur le fait que c'est sans doute positif pour la santé d'encourager les gens à être en contact avec la nature. C'est plutôt le fait que c'est dangereux. Mais alors, ce qui m'a interpellée, c'est les différentes choses qui ont été dites au sujet de l'ombre, d'une part avec les nuages, et puis d'autre part avec des ombres dont vous n'avez pas spécifié l'origine. Mais donc du coup, je me demandais, dans le cas dans les forêts, en fait, quand il y a une couverture arborée, mais qui ne constitue pas nécessairement une ombre très dense, mais où on suppose souvent en tant que promeneur que, ben, on a l'ombre,
Oui. C'est bon. Donc, c'est quelque chose que vous avez regardé ?
Oui, je ne suis pas rentré dans les détails de la qualité de l'ombre. La moins bonne ombre, c'est l'ombre des bâtiments, notamment sur Notre-Dame, par exemple, quand on était sur le parvis de Notre-Dame, l'ombre portée par les immeubles était de très très mauvaise qualité, puisqu'il y avait un indice UV qui était à 90% de ce qu'on trouvait en pleine, au milieu de la place. On a regardé aussi effectivement l'impact de l'ombre dans les parcs, donc sous les arbres. Alors là, c'est extrêmement variable, ça dépend du feuillage, ça dépend de paramètres qui sont directement liés au feuillage, donc de la densité, de l'épaisseur, etc. Ce qui est sûr, c'est quand vous vous baladez dans une forêt ouverte, l'ombre est de très mauvaise qualité. Moi, j'ai fait des mesures au Bois de Boulogne, parce que j'étais en Brasse-Paré, donc face à Roland-Garros, très dur. Au moment de Roland-Garros, l'ombre, on se rend compte, quand on passe à 50 cm, l'indice UV est extrêmement variable sous l'ombre d'un arbre. C'est extrêmement variable. Donc, il ne faut pas considérer cette ombre comme une bonne ombre. Et je vous dis, hein, ce serait une crème solaire, elle serait interdite. Si on utilisait l'indice de réduction de l'indice, enfin, la correction de l'indice UV, ce ne serait pas vendable en termes de crème.
Bon, donc je pense qu'on en retire pas mal d'éléments pratiques. Oui.
Bonjour, Cécile Vignol du Centre national d'études spatiales. Donc moi, je vais revenir évidemment sur votre utilisation des images satellites. J'aurais voulu juste savoir ce que vous en retirez, parce que finalement, leur utilisation est globalement positive. Est-ce que ça vous permet finalement de vous passer des mesures du sol, si, quand vous n'en avez pas, ou est-ce que s'il y a encore du travail à faire sur ces mesures satellites que vous avez utilisées? Et juste une deuxième petite question, puisque ce n'est pas toujours bon d'être au soleil, si on a peur d'avoir un coup de soleil, pour la vitamine D, qu'est-ce qu'on peut faire? À part le soleil, on peut la trouver où? Le saumon, avec tout ce qu'il a à l'intérieur.
Qu'il exclut de faire une prévention complète. Non, il faut sortir, évidemment. On ne va pas interdire aux petits footeux d'aller faire du foot, au contraire, c'est formidable. Après, lors d'un tournoi où un gamin joue une heure mais est exposé 12 heures, ben, il y a 11 heures où il faut qu'il fasse de la prévention parce que son heure d'exposition suffira pour faire suffisamment de vitamine D. C'est plus là où est le message. Moi, mon rêve, c'est qu'on construise enfin des arbres sur les terrains de foot. Il n'y a pas d'arbres sur les terrains de foot, il n'y a pas d'ombre sur les terrains de foot. Je ne parle pas du Parc des Princes, mais sur les terrains de foot, où vont tous nos gamins? Les terrains de foot au bord du périphérique, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une zone d'ombre. Ça, ce n'est pas normal.
Oui, et surtout aussi, y a un problème de comportement. Tu es passé rapidement dessus, mais c'est vrai que les enfants ne sont pas protégés du tout. Y a pas de, on les voit, ils n'ont pas de casquette, ils n'ont pas de crème, etc. Donc les enfants pensent que... Je fais juste sur les mesures satellites. Donc effectivement, les mesures satellites sont très utiles parce que ça permet d'avoir une image globale et puis une image de base aussi pour pouvoir calculer l'indice UV partout. Par contre, pour ce qui est de passer un peu plus de façon fine sur la dose effectivement reçue, je pense que là, il faut aller sur des mesures un peu plus précises et locales parce qu'on a vu que pour certains types de mesures satellites, il peut y avoir des problèmes de biais, etc. Donc, oui, il y a un problème de résolution, et puis il peut y avoir un problème de biais pour certains instruments aussi. Voilà, donc, le message, nous, qu'on avait, c'est de dire, oui, effectivement, c'est des mesures qu'il faut utiliser, mais simplement, pour aller plus loin et pour les médecins, il ne faut pas penser que c'est la vérité absolue et qu'il y a quand même l'aspect local à privilégier, justement, lorsqu'on veut faire des modèles épidémiologiques.
Merci. Vas-y Philippe.
C'était juste pour rebondir sur la vitamine D. La vitamine D, on lui attribue plein de bénéfices, mais c'est très hypothétique. Et pour un dermatologue, ce qu'il faut, c'est plutôt se protéger du soleil et éviter les excès. Et pour quand on est en déficit en vitamine D, pour 1 euro par mois, on en prend, c'est très facile. Et c'est absolument atoxique. Deuxième chose, c'est problématique sur la protection solaire s'améliore. J'étais à Edimbourg au Congrès mondial des cancers cutanés il y a deux semaines. J'ai vu les Australiens qui ont fait un essai randomisé dans les écoles. Ils ont tiré au sort certaines écoles où ils ont construit des ombres artificielles dans les cours de récréation. D'autres écoles n'ont pas construit. C'était tiré au sort. Ils ont regardé si c'était effectivement utilisé. quand on donne aux gamins la possibilité d'aller à Londres, eh ben, ils y vont. Donc, c'est très important.
C'est ce qu'ont montré les Américains dans le foot. Hein. Leur étude, c'était toute simple, ils mettaient des tentes. Hein. Et ils se rendaient compte que les gamins allaient sous les tentes. Alors la seule limite, c'est que les tentes étaient blanches et qu'ils n'ont pas mesuré l'indice UV dessous. Il serait peut-être bien quand même de vérifier que ça protège vraiment. Je ne pense pas.